Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 18 mars 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En Tanzanie, les drapeaux sont en berne après la disparition du président John Magufuli. Officiellement, c'est suite à des problèmes cardiaques, mais l'opposition dit qu'il est mort du Covid. En RDC, au moins 30 morts en deux jours de combat entre l'armée et la milice Codeco en Ituri. Le Congo-Brazzaville tient dimanche une élection présidentielle. Denis Sassou Nguesso, depuis longtemps au pouvoir, fait face à 6 candidats, dont 2 anciens ministres. Montée de tensions entre Washington et Moscou, Joe Biden a accusé Vladimir Poutine d'être un tueur. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Le président tanzanien John Magufuli est décédé mercredi officiellement pour des problèmes cardiaques, mais le leader de l'opposition affirme qu'il est mort du Covid. Claire Morin-Gibourg.
John Magufuli est apparu la dernière fois au public le 27 février. Âgé de 61 ans, il a été hospitalisé d'abord le 6 mars à l'Institut de cardiologie Jakaya Kikwete de Dar es Salaam, puis à l'hôpital Emilio Mzena où il est décédé. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan a précisé que le président souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans. Le chef de l'opposition, Tundu Lissou, assure qu'il est mort du coronavirus, ajoutant que le président Magufuli a défié la science et refusé de prendre les précautions de base et qu'il est tombé à cause du coronavirus. Fervent catholique, M. Magufuli avait affirmé que son pays était libéré du Covid-19 grâce aux prières. Il aimait à se présenter en homme du peuple malgré un doctorat de chimie et des études en Grande-Bretagne. Surnommé le bulldozer, il était arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption, mais son premier mandat a été marqué par une dérive autoritaire. Sa réélection en octobre a été rejetée par l'opposition qui a dénoncé des fraudes.
Et puis le département d'État américain a adressé ses condoléances aux Tanzaniens. Les États-Unis restent déterminés à continuer de soutenir les Tanzaniens dans leur plaidoyer pour le respect des droits de l'homme et des libertés et de lutter contre la pandémie du COVID-19 et souhaitent que la Tanzanie pourra avancer sur une voie démocratique et prospère. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 30 personnes, dont 12 civils, ont été tuées en deux jours de combat entre l'armée congolaise et une milice active en Ituri. Le point avec Eddy Hisango.
Les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, ont tué 11 civils, 2 militaires et un policier dans leur attaque lundi contre les villages des Tchélé et Gagnoa dans les territoires de Djougou au nord de Bounia, chef-lieu de l'Ituri. Le porte-parole de l'armée dans la province indique que les forces régulières ont en revanche neutralisé ou tué 16 miliciens. Le lieutenant Jules Ngongo précise que l'armée a poursuivi les assaillants jusque dans leur base arrière située dans le village Mbaou et que les deux villages théâtre des affrontements sont actuellement sous les contrôles de l'armée. La Codeco prétend défendre les Lindous dans cette région où les conflits communautaires avec les Ema avaient fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003.
En République du Congo, les électeurs seront aux urnes dimanche pour élire leur président. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, fait face à 6 adversaires, dont 2 anciens ministres, Mathias Djong et Guy Brice Parfait Kolela. Le point avec Nathalie Barge.
À 3 jours de la présidentielle, Denis Sassou Nguesso courtise la jeunesse. Plus de 600 000 jeunes se sont connectés sur les réseaux sociaux selon les communicants français chargés de sa stratégie. Les jeunes de moins de 25 ans, majoritaires dans le pays, n'ont connu que ce président Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1979. Avec une parenthèse entre 1992 et 1997, lorsque Pascal Lissouba a remporté la première élection pluraliste. L'activiste Frank Nzila a annoncé une campagne contre l'achat du vote des jeunes par le régime, les appelant à voter pour l'alternance contre les candidats qui, selon lui, n'ont rien fait depuis 30 ans. Denis Sassou Nguesso fait face à 6 autres candidats, dont 2 de ses anciens ministres, Mathias Nzon et Guy Brice Parfait-Colelas, devenus ses farouches opposants. La dernière présidentielle en 2016 s'est soldée par sa réélection et la condamnation en 2018 à 20 ans de prison de 2 candidats, le général Jean-Marie Mokoko et André Okombi-Salissa, pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Sénégal, à Dissar, la jeune femme qui a porté plainte pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko a réitéré mercredi ses accusations et a affirmé qu'elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires. La défense d'Ousmane Sonko a dit jeudi se concentrer sur la procédure en cours plutôt que de répondre à l'intervention devant les médias de celles qui accusent leurs clients. Par ailleurs, le Sénégal a annoncé qu'il va continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, même si l'Allemagne et la France et d'autres pays ont suspendu l'utilisation de ce vaccin. Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, a dit espérer que les doutes à propos du vaccin AstraZeneca ne vont pas s'étendre aux autres vaccins. Comme l'OMS à Genève, elle a estimé que les avantages du sérum AstraZeneca sont plus importants que les inconvénients et elle a encouragé tous les pays africains à poursuivre la vaccination. La police libyenne a annoncé avoir remis jeudi à Tunis un groupe de 10 femmes et 14 enfants des djihadistes tunisiens présumés au lendemain d'une visite du président tunisien à Tripoli. Les personnes rapatriées étaient détenues dans une prison dans la capitale après avoir été arrêtées dans les rangs du groupe État islamique en fin 2016 à Sirte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine s'est moqué aujourd'hui de son homologue américain Joe Biden, qu'il a traité hier de tueur. Le dirigeant russe maintient que son pays défendra ses intérêts face aux États-Unis. Jacques Aristide.
C'est celui qui le dit qu'il est, a lâché Vladimir Poutine aujourd'hui. Ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques, ajoute le président russe qui réaffirme que son pays défendra ses propres intérêts. Hier, Joe Biden a répondu par l'affirmative à une question d'un journaliste lui demandant si le maître du Kremlin était un tueur. Dans cet entretien, Joe Biden a dit vouloir faire payer le prix aux dirigeants russes l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020. Moscou a toujours démenti ces accusations tout en soulignant que les remarques de Biden relevaient de l'inacceptable. Fait inédit depuis 1998, l'ambassadeur russe à Washington a été rappelé à Moscou. Le département d'État américain a indiqué qu'il ne prévoyait pas de rappeler son représentant à Moscou. L'Allemagne a salué le langage très clair des États-Unis à l'égard de la Russie. Malgré leurs désaccords, les deux puissances ont dit vouloir coopérer sur des dossiers d'intérêt commun.
La Chine a fait part ce jeudi de sa ferme détermination à défendre ses intérêts et prévenu Washington que toute pression serait inutile avant une rencontre de haut niveau avec les États-Unis en Alaska. Il s'agit de la première rencontre en tête-à-tête entre les deux premières puissances depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan vont échanger à Anchorage avec de hauts responsables chinois Yang Jiechi et Yang Yi. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a bouclé aujourd'hui à Séoul son premier déplacement à l'étranger aux côtés du secrétaire à la défense Lloyd Austin. À propos de la Corée du Nord, il a laissé entendre que les États-Unis envisagent à la fois une politique de pression et des options diplomatiques. Pyongyang a rejeté l'hypothèse des discussions si Washington ne change pas sa politique. En Afghanistan, 4 personnes ont été tuées, 9 autres blessées jeudi dans l'explosion d'un engin piégé contre un véhicule qui transportait des employés du gouvernement afghan à Kaboul. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une large majorité des pays à revenus faibles ou intermédiaires ont mis en place un programme de vaccination contre le COVID-19, mais un nombre insuffisant de personnels de santé sont formés, déplore la Banque mondiale dans un rapport publié ce jeudi. Le rapport se concentre sur notamment la chaîne du froid et la logistique, la formation du personnel de santé et la surveillance de la sécurité de la vaccination. La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle allait activer une procédure pour résoudre le conflit avec le laboratoire AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins anti-Covid sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique et d'Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Niger, la compagnie minière Global Atomic a annoncé le 17 mars que l'essai pilote réalisé à la mine d'uranium de Daza avait été très concluant. Le taux de récupération atteint est excellent et varie de 92,8% pour le minerai extrait en surface à 97,8% d'uranium pour le minerai plus profond. Cette étude de faisabilité devrait être achevée au troisième trimestre et la construction de la mine de Daza pourrait commencer dès début 2022. Dans sa première phase d'exploitation, qui durera 12 ans, la mine devrait livrer annuellement 4,4 millions de livres d'uranium à un coût global de $18,39 la livre. La Banque africaine de développement est optimiste pour le Gabon. L'institut financier projette pour l'année en cours une croissance du produit intérieur brut réel du Gabon de 2,1% en 2021 et de 3,8% en 2022. Le taux d'inflation devrait diminuer à 3% en 2021 et à 2,5% en 2022. Cependant, ce scénario optimiste risque d'être compromis si la pandémie se poursuit au-delà du troisième trimestre de 2021, précise la BAD, car la reprise économique mondiale serait retardée et cela affecterait la croissance. Les pays africains continuent de commercer davantage avec l'extérieur qu'entre eux, selon les conclusions d'un rapport d'évaluation de la Commission économique pour l'Afrique sur les progrès réalisés en matière d'intégration régionale dans le contexte de la pandémie de Covid-19. L'Union européenne occupe la plus grosse part du marché, représentant 29,8% du commerce total en 2018. La tendance est cependant en train de changer après le Brexit et également en raison de l'augmentation des échanges entre la Chine et l'Afrique.
À présent, la page des sports, et c'est avec Élisée Oumpatine.
Bonjour à tous les amis sportifs. Les clubs français refusent de libérer les joueurs africains pour les matchs internationaux de fin de ce mois. Dans une semaine vont se jouer les deux dernières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Décrocher son billet pour la phase finale au Cameroun. Mais en raison de la situation sanitaire, la FIFA autorise les clubs à ne pas libérer leurs internationaux si au retour une quarantaine doit leur être imposée. C'est d'ailleurs ce que les autorités françaises imposent. Une période d'isolement qui excède 5 jours pour les voyageurs en provenance d'un pays hors Union européenne. Du coup, hier, les clubs français de Ligue 1 et 2 se sont mis d'accord pour ne pas libérer leurs internationaux non européens. Une décision qui n'a pas empêché Vahid Halilhodžić de retenir Naïef Agued du Stade Rennais pour le prochain rassemblement du Maroc. Évoquant une pression terrible évoquée par les clubs européens, le technicien affirme qu'il serait intransigeant si un des joueurs convoqués ne se présente pas lundi au lieu de rassemblement. Il estimera que ce sera un refus de représenter son pays à l'international et prendra des décisions en conséquence. Les Lions de l'Atlas, qui n'ont besoin d'un point pour garantir officiellement leur qualification, affronteront la Mauritanie le 26 mars, puis le Burundi 2 jours plus tard. À l'inverse de son homologue marocain, Patrice Boumel s'est plié à la décision des clubs professionnels français et n'a convoqué aucun joueur ivoirien de Ligue 1. En revanche, la pépite Amad Diallo, récemment recrutée par Manchester United, est présente pour la première fois, tout comme Fousseni Koulibaly de l'Espérance de Tunis. Les cadres comme Aurier, Bailly, Kessié, Chevillot, Zaya, Pepe ou encore Gradel sont tous présents sous réserve que le club les libère. en tête de son groupe à égalité avec Madagascar. La Côte d'Ivoire devra valider sa qualification contre le Niger le 26 mars et l'Éthiopie le 30 mars. C'est un peu plus compliqué pour le sélectionneur de la RDC, Christian Nsengui, qui fait déjà face au casse-tête qu'il redoutait. De sa liste de 31 joueurs publiés, déjà 4 noms à retirer officiellement. Notamment Tumessi Mbokani et Glody Ngonga, qui ne viendront pas à cause du refus de leur club. Les Léopards, troisième de leur groupe, n'auront rien d'autre que de prendre 6 points face au Gabon le 25 mars et à la Gambie le 29 mars pour être au Cameroun en 2022.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les Tanzaniens sont sous le choc après l'annonce du décès de leur président John Magufuli. Ce matin, les drapeaux étaient en berne. Les autorités ont annoncé 14 jours de deuil national. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui a annoncé hier sa mort, prendra sa succession jusqu'à la fin de son mandat. Plus de détails avec Blanche Sanou.
À 61 ans, le président John Magufuli est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis 10 ans, selon le communiqué de la vice-présidente Samia Suluhu Hassan. Les Tanzaniens ont exprimé leur tristesse après la disparition de leur président.
Je ne suis pas content parce que pour une fois, nous avons réussi à avoir un leader courageux. Mais maintenant qu'il est parti, je n'ai pas de mots pour être honnête parce que nous avons perdu espoir. J'ai mal. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur. Nous avions de grandes attentes parce qu'il est un tel leader. Les choses commençaient à aller mieux.
Au moment où j'ai entendu que le président était mort, pour être honnête, j'ai été choqué. Je ne pouvais pas le croire avant d'avoir vu les nouvelles en ligne. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai cru réellement que le président nous avait quittés. Comme tout autre Tanzanien, je suis choqué et nous ne sommes toujours pas d'accord avec les nouvelles. Nous suivrons tous le même chemin. Celui qui vient ensuite doit suivre les traces du président pour que nous progressions en tant que nation.
Le docteur John Pombe Magufuli a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons eu beaucoup de gains, je ne peux pas l'expliquer. Nous l'aimions tellement, aucun mot ne peut expliquer comment nous l'aimions, mais Dieu l'aimait plus que nous, que son âme repose en paix.
Le chef de l'État n'était plus apparu en public depuis le 27 février. Cette absence avait alimenté des rumeurs qui le disaient notamment atteint du Covid-19, une maladie qu'il n'avait cessé de minimiser. Le principal chef de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissou, en exil en Belgique, a déclaré à la télévision nationale kényane KTN que le président John Magufuli est mort du coronavirus mercredi dernier.
La seule chose qui me surprend, c'est le fait qu'il continue de mentir jusqu'à présent. Même maintenant qu'il est mort, son gouvernement continue de mentir. D'abord, Magufuli est mort de corona. Ensuite, Magufuli n'est pas mort hier soir. J'ai des informations provenant essentiellement des mêmes sources qui m'ont dit qu'il était gravement malade. Des infos selon lesquelles Magufuli est mort depuis mercredi passé.
Plusieurs pays de la région de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont présenté leurs condoléances. À Washington, Ned Price, porte-parole du département d'État, a déclaré « Nous adressons nos condoléances aux Tanzaniens pleurant le décès du président John Magufuli. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement tanzanien pour améliorer les liens entre les peuples américains et tanzaniens. » Les États-Unis restent déterminés à soutenir les Tanzaniens dans leur plaidoyer pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Nous espérons que la Tanzanie pourra avancer sur une voie démocratique et prospère. Selon la constitution tanzanienne, Samia Suluhu Hassan assumera la présidence pour le reste du mandat de 5 ans du défunt président. C'est la première femme à occuper cette fonction en Tanzanie.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire aussi, après la cérémonie d'hommage à Ahmed Bakayoko qui est décédé le 10 mars dernier, ce matin, le corps de celui qu'on appelait le Golden Boy a quitté Abidjan pour Séguéla, localité d'origine de l'ancien premier ministre qui sera inhumé demain vendredi. Le reportage de Lamine Traoré, correspondant de VO Afrique, qui est à Abidjan.
À Ivocep, Ivoire Sépulture, la principale société des pompes funèbres du pays au quartier Trècheville. À l'extérieur, un important dispositif sécuritaire. Dans la cour, quelques dizaines de personnes, des proches, des amis, des connaissances de la famille Bakayoko. Le pavillon où est exposé dans un cercueil le corps de Ahmed Bakayoko est plein. Des personnalités, des musiciens, des stars du football à l'image de Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor sont dans la salle. Le président Alassane Ouattara lui arrive à 12h, temps local. Une heure plus tard, le corbillard devant transporter le corps est positionné. Le corps de Ahmed Bakayoko quitte ainsi Ivocep, direction Séguéla, son village d'origine. Mamadou Traoré, adjoint au maire d'une commune au Mali, a effectué le déplacement. Ambak était son idole.
98, j'ai eu la chance de le connaître. Ces jours, j'étais dans le showbiz comme lui, je l'imitais, je prenais un papier pour copier ses mots de présentation de concert, de concert d'Extra Musica, concert de Papa Wemba, concert de Jibé Piana, concert de Wigue Musica. Et dès lors, j'ai commencé à admirer ce monsieur, jusque là aujourd'hui qu'il a embrassé la politique en 2001. Moi aussi j'ai embrassé la politique. Depuis lors, j'ai essayé de faire l'école de journalisme comme lui, et j'ai mon journal au Mali. Tout récemment, j'ai ouvert une radio qui s'appelle Africa FM, une radio que j'ai pris l'initiative à travers lui. Donc cet homme, durant tout son parcours, a été une lumière pour moi, a été une référence pour moi, a été un modèle d'homme, d'homme d'État, d'homme de principe, d'homme digne.
Plus que triste.
Lobé est un Ivoirien.
De la manière, la maladie l'a foudroyé, la nouvelle m'a foudroyé. Mais c'est parce que physiquement, on ne peut pas s'écrouler, voilà, parce que physiquement, quand je suis d'aplomb, raison pour laquelle je tiens encore sur les pieds.
Adama Sidibé est un imam qui a connu Ahmed Bakayoko.
Chaque vendredi, je vais prier pour lui là-bas. Ils m'ont donné quelque chose, ils m'ont pas donné quelque chose. Les bonnes fois m'appellent. Souvent, ces gars prennent parti. Quand le ministre dit de te donner ça, dans la rue même. Il m'a donné un laissez-passer. C'est dans la rue, il m'a donné. On est le ministre, a besoin de toi. Il m'a donné un laissez-passer. J'ai pris pour lui, pour le président Alassane Ouattara.
C'était donc le dernier acte de ses hommages au Golden Boy ici à Abidjan. Le corps est en train d'être transféré à Séguéla pour inhumation demain vendredi. Lamine Traoré, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La traque des produits contrefaits et de qualité douteuse s'intensifie au Cameroun. Depuis le début de l'année, les autorités camerounaises ont ainsi saisi des quantités importantes de produits frélatés, des bouteilles de whisky, de vin, des bières de luxe, des boissons gazeuses, de l'eau minérale, des produits pour la plupart issus de la contrebande ou fabriqués localement dans les quartiers de Yaoundé ou de Douala, les deux plus grandes métropoles du pays. À Yaoundé, le récit de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les consommateurs camerounais sont aux abois à cause de la prolifération des produits contrefaits sur le marché. Écoutons ces commerçants de la place.
Je ne peux pas dire que je suis vraiment en sécurité car d'après ce que j'ai entendu ces derniers jours, on fabrique les produits frélatés. Certains produits qui contiennent certaines substances, peut-être chimiques, qui peuvent affecter la santé des uns et des autres.
Le consommateur lambda que nous sommes se retrouve dans une sorte d'insécurité alimentaire. Laquelle insécurité aujourd'hui nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour être effectivement confiant dans ce que nous devons consommer. Quant à peut-être l'originalité, l'authenticité des produits que nous retrouvons désormais sur le marché camerounais.
On se rend compte que ce que nous consommons n'est pas très bien, mais on n'y peut rien, nous sommes au pays et la vie est si dure.
En Fou, une banlieue de Yaoundé, les services du ministère du Commerce ont saisi des produits contrefaits et de la contrebande, de l'eau minérale, du vin, du fer à béton, tous retirés du circuit commercial et stockés ici. Armand Claude Mbarga est le délégué départemental du commerce de la même foi.
Il y a des Camerounais, des malins, enfin des bandits économiques qui fabriquent tous ces produits dans leur maison. On voit des grosses barrières alors qu'à l'intérieur il y a des usines. La contrebande, c'est ce qui, vous savez, nos frontières sont un peu poreuses qui font entrer la marchandise au pays sans embraser les voies légales. Il y a ce combat que nous menons au quotidien.
Réunis lors de la Journée mondiale des droits des consommateurs, les membres de la Ligue camerounaise de consommateurs ont échangé sur les dégâts de la contrefaçon et de la contrebande au Cameroun. Le président de cette association, Delor Magellan Kamgan Kamse, mène ce combat depuis 19 ans.
Nous sensibilisons et éduquons aussi les consommateurs pour qu'ils aient les astuces pour empêcher de tomber dans le traquenard de ces gens-là. Par exemple, le consommateur ne doit pas être pressé à acheter une bouteille de vin ou de whisky sans avoir pris la peine de lire l'étiquette. Parce qu'il faut le dire, il y a une différence entre l'étiquette et la vignette. La vignette intéresse le circuit fiscal, alors que l'étiquette, ça concerne, c'est que le produit contient et la qualité du produit.
Un numéro vert, le 15-2, est désormais fonctionnel pour dénoncer les activités de contrefaçon et de contrebande au Cameroun. La contrebande fait perdre à l'État camerounais plus de 350 milliards de francs CFA chaque année, d'après les statistiques du ministère des Finances, dont l'urgence de cette bataille à tous les niveaux. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'administration Biden entre succès et défi. Le président américain vient de remporter sa première grande victoire législative avec l'adoption d'un vaste plan de relance économique de près de 2 000 milliards de dollars. Un plan adopté au Congrès sans le soutien des républicains. Ces derniers, par ailleurs, critiquent le président Biden dans son approche sur l'immigration qui, selon eux, a conduit à une nouvelle crise à la frontière avec le Mexique. Plus de 4 000 mineurs non accompagnés sont entre les mains des autorités et le nombre s'accroît au quotidien. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com.
La tension monte entre les États-Unis et la Russie à la suite des déclarations du président américain Joe Biden accusant le président Vladimir Poutine d'être un tueur. Aujourd'hui, M. Poutine s'est moqué de Biden et a promis de défendre les intérêts russes. Le point avec Patsy Widakwazura, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est signé Jacques Aristide.
Le président Joe Biden n'a pas mâché ses mots à l'égard de Vladimir Poutine. Il a dit penser que son homologue russe était un tueur et a prévenu qu'il en paierait les conséquences. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Les Russes seront tenus responsables des actions qu'ils ont prises. Nous en aurons bientôt plus à ce sujet.
Dans un récent rapport, les services de renseignement américains pointent du doigt l'ingérence russe. Dans la présidentielle américaine de novembre dernier, le président Vladimir Poutine est accusé d'avoir autorisé des opérations d'influence pour nuire à la candidature de Joe Biden face à Donald Trump. Des sanctions liées à l'ingérence électorale sont attendues. Les États-Unis indiquent également avoir décidé d'étendre les restrictions d'exportation vers la Russie dans le cadre de l'affaire d'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. L'ambassadeur russe à Washington a été rappelé à Moscou. William Courtney est chercheur à la Rand Corporation.
Il est rare qu'un président américain qualifie le dirigeant d'une grande puissance antagoniste de tueur. Parfois, des ambassadeurs sont rappelés après des insultes, et bien sûr, l'administration Biden parle de plus de sanctions en ce qui concerne la cyberattaque SolarWinds. Ces deux facteurs pourraient donc être pris en compte.
D'après le rapport des services de renseignement américains, la Russie a répandu de fausses informations sur Joe Biden, alors candidat, en utilisant des agents ukrainiens liés à des membres du cercle restreint de Trump, y compris son avocat personnel, Rudy Giuliani. Nina Yankovic, chercheur au Wilson Center.
Les questions d'actualité, comme par exemple Black Lives Matter ou l'avortement ou les armes à feu, sont toutes des choses que nos adversaires utilisent, qu'ils amplifient. Ils les utilisent pour dresser les Américains les uns contre les autres et pour décourager la participation et la confiance dans le système démocratique.
Vu la puissance militaire des États-Unis, leurs adversaires préfèrent avoir recours aux cyberattaques et aux campagnes de désinformation. Avec ses alliés occidentaux, Washington peut riposter par le biais de sanctions, de visas et de restrictions bancaires, d'après Elizabeth Brough de l'American Enterprise Institute.
Si vous intervenez dans nos pays, nous aiderons vos comptes bancaires et nous n'allons pas dire à qui ils appartiennent. Cela peut être n'importe qui que nous choisirons. Ce sont des choses comme ça que nous pouvons utiliser à notre avantage en tant que démocratie libérale.
Même si l'administration Biden a fait part de mesures punitives à venir, elle ne manque pas de dire non plus qu'il existe des domaines de coopération avec la Russie ayant trait notamment au changement climatique, au pourparlers sur le nucléaire iranien et sur le contrôle des armements.
Et c'est la fin de ce journal à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.